La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous être fidèles au deuxième jour de cette série consacrée à Marcel Proust et sous-titrée Premier Mouvement. Elle vous est proposée par Chloé Kaczmarek, David Jacubovies, Coppelia Menardi, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault, avec à la console Pierrick Monsigny. Pour la plupart de ses lecteurs, la vie de Marcel Proust se résume à quelques images. Une chambre recouverte de liège, des salons mondains dans le Paris de la fin du XIXe siècle, des manuscrits qui se déplient au fur et à mesure des ajouts de l'auteur. Voilà quelques instantanés de cette vie de Proust dont on a vu hier avec Jean-Yves Tadié que s'il n'était pas le narrateur d'À la recherche du temps perdu, eh bien Proust se trouvait tout entier dans son œuvre. Cette émission est à retrouver dès à présent en podcast. Demain, nous nous arrêterons longuement sur la figure de Charlus, grand personnage homosexuel de la littérature française qui confondait l'art et la vie et prenait en dormant des airs de jeune fille qu'il tâchait d'enfouir durant la journée sous une virilité factice. Philippe Berthier nous parlera de ce personnage plus vrai que nature, inspiré du comte de Montesquieu. Enfin, jeudi, deux écrivains qui ont tous deux travaillé sur Proust. D'abord, Michel Schneider viendra pour son livre « L'auteur, l'autre, Proust et son double ». Puis en seconde partie, Pierre-Yves Leprince nous parlera de ses dernières enquêtes de Monsieur Proust. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour aller plus loin dans la dissection de Proust et de son œuvre, je recevrai en seconde partie le professeur de médecine François-Bernard Michel qui nous racontera ce que l'auteur de la recherche pensait des médecins qui ont échoué à le soigner et de la présence de cette discipline au sein de son œuvre. Mais tout de suite, c'est avec Michel Hermant que nous commençons notre émission. Il est professeur à l'Université de Bourgogne, auteur d'une biographie de Proust qui a été rééditée en 2013 à la Table Ronde. La Table Ronde où il a aussi publié l'année dernière des bottins proustiens sur les lieux et les personnages de la recherche. Il est enfin l'auteur d'un Que sais-je sur les 100 mots de Proust qui nous servira de fil conducteur aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Et bonjour à vous Michel Hermant.
Bonjour.
Alors dans votre avant-propos à ce livre dont on va parler, les 100 mots de Proust, vous donnez une définition de « À la recherche du temps perdu ». Hier, avec Jean-Yves Tadié, nous avons donné également une définition d'À la recherche du temps perdu, qui était pour lui l'attente par le narrateur du moment toujours différé où il va commencer à écrire. Quelle est pour vous la définition de cette suite de livres ?
Oui, moi en un mot, je dirais que « La recherche du temps perdu », c'est une grande traversée de l'existence et des passions. L'existence, elle est faite au fond de bonheur et de malheur. Elle est faite de choses extrêmement relatives, de contingences. Et les passions, elles nous plongent finalement dans la réalité de la Belle Époque. Ce sont à la fois des passions individuelles, des passions amoureuses, mais ce sont aussi des passions collectives.
Donc ce sont des passions qui sont situées historiquement ?
Ce sont des passions qui sont situées historiquement, absolument. Moi, je lis La recherche du temps perdu, entre autres, parce que La recherche du temps perdu se lit selon différents aspects, selon différents points de vue. Et on ne la lit sans doute pas de la même manière selon les différents âges de la vie, d'ailleurs. Et moi, je la lis, entre autres, comme une grande mise en scène de la reconnaissance hégélienne. C'est cela au fond qui pointe les personnages, en particulier les personnages sociaux, mais chaque personnage est à la fois un personnage individuel et un personnage social. Et la grande bataille dans La recherche du temps perdu, c'est bien sûr la bataille entre les Verdurins et les Guermantes, qui sont à l'image finalement de ce changement social, du devenir social. Pour Proust, les hommes ont un devenir, mais les sociétés ont aussi un devenir. Et voilà, donc ma définition de la recherche, c'est ça. Ce sont une grande traversée de l'existence et des passions. Mais ce qui fait la difficulté du livre, c'est que, et la beauté du livre, et la puissance du livre, c'est que cette existence, comme le disait Georges Poulet, elle est à la recherche de son essence. Et l'essence, c'est finalement l'essence du temps, l'or du temps, comme aurait dit André Breton. Et cet or du temps, Proust, au fond, le cherche à travers la constitution d'une durée bergsonienne. Il s'est toujours défendu d'être bergsonien. Bergson était son cousin, il avait assisté à ses leçons au Collège de France. Il le connaissait bien, il connaissait bien son œuvre. Et au fond, la théorie de la réminiscence, c'est une théorie adaptée, orientée vers la mémoire, bien évidemment, hein, de la durée bergsonienne. L'association d'un moment de passé et d'un événement présent. Voilà, donc cette définition vous entraîne un peu loin, pardonnez-moi, mais un peu à la Proust, là j'ai, à la manière un peu télescopique dont il écrivait son œuvre, j'ai enfin développé, là je commence à développer plusieurs choses qui peut-être...
Non mais pas préciser. Du tout. Alors lui-même utilisait la métaphore de la cathédrale pour définir son œuvre, il utilisait aussi la métaphore de la robe. Vous pourriez reprendre à votre compte, j'imagine que oui, quand même, c'est Proust qui...
Alors, ce sont de très belles métaphores. La métaphore de la cathédrale, évidemment, c'est une métaphore très 19e. Hein. La cathédrale, c'est la grande œuvre. Et ça s'appuie d'ailleurs chez Proust sur l'imaginaire de l'art gothique, qui était l'art français par excellence, le génie français par excellence.
D'ailleurs, il y a une entrée francité dans les 100 mots
oui,
de Proust.
Oui, oui,
Dans
mes 100 mots, je veux dire, c'est ma vision de Proust. Enfin, je pense qu'elle est, elle est partageable. Hein. C'est la vision d'un lecteur amateur. Je crois qu'on est amateur de Proust. Entre guillemets, je suis spécialiste. J'ai consacré des livres, comme vous l'avez raconté, une biographie, une thèse, etc., etc. Mais le plaisir de la lecture de Proust, c'est ça qui fait que cela fait 20 ou 30 ans que je m'intéresse à Proust. Et donc, oui, la métaphore de la cathédrale, c'est une grande métaphore et ça rappelle la francité. Proust était un patriote. Faut pas l'oublier. On parlera peut-être un peu de ça tout à l'heure. Et il y a une, alors c'est la métaphore de la construction, de l'architecture. Pour Proust, la recherche, quand on lui demandait une définition de la recherche, il disait c'est une construction. Ce que les lecteurs ne voyaient pas, c'est une construction. Et comme
construction pensée depuis longtemps.
Pensée depuis longtemps. Pensée depuis longtemps, en raison de drames éditoriaux dus à la guerre, puisque l'édition de la recherche a été interrompue par la guerre, après avoir eu beaucoup de mal à démarrer, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est quand même un cas d'édition qui aurait pu ne pas se faire, la recherche du temps perdu.
Ça, c'est l'entrée publication, je pense, à laquelle
vous pensez. Ça, c'est l'entrée publication, oui. J'ai voulu, si vous voulez, avec ce livre, faire une sorte de kaléidoscope, hein, un peu à la Proust, de choses vues, mais de choses qui n'étaient pas toujours sues par les lecteurs.
Alors, on va entrer dans un certain nombre de ces mots. Il y a la métaphore de la cathédrale, il y a aussi la métaphore de la robe qu'a utilisé Proust, et c'était en particulier pour évoquer ces paperoles qu'il ajoutait donc à ses textes et qui rendaient fous les éditeurs. On le comprend d'ailleurs dans cette lettre de Proust à Gaston Gallimard, lue ici par Christophe Braume.
Cher ami et éditeur, vous paraissez me reprocher mon système de retouches. Je reconnais qu'il complique tout, pas dans la chose de la revue en tout cas. Mais quand vous m'avez demandé de quitter Grasset pour venir chez vous, vous le connaissiez car vous êtes venu avec Copeau qui, devant les épreuves remaniées de Grasset, s'est écrié « Mais c'est un nouveau livre !» Je m'excuse auprès de vous de deux façons. La première, c'est en disant que toute qualité morale a pour fonction une différence matérielle. Puisque vous avez eu la bonté de trouver dans mes livres quelque chose d'un peu riche qui vous plaît, dites-vous que cela est dû précisément à cette surnourriture que je leur réinfuse en vivant, ce qui matériellement se traduit par ces ajoutages. Dites-vous aussi que si vous m'avez donné une grande preuve d'amitié en me demandant mes livres, c'est aussi par amitié que je vous les ai donnés. Quand je vous ai envoyé le manuscrit de Swann et que vous l'avez refusé, il pouvait y avoir intérêt pour moi à ce que l'éclat de votre maison illustrât un peu ce livre. Depuis qu'il a paru chez Grasset, il s'est fait, je ne sais comment, tant d'amis que je pouvais publier les suivants chez Grasset sans craindre qu'ils passassent inaperçus. J'ai obéi en les lui retirant et en les mettant chez vous à une pensée d'amitié comme vous. Hélas, vous êtes parti. Je n'ai cessé de recevoir des livres des autres. Car il y a des éditeurs qui ont des imprimeurs, croyez-en la pile d'ouvrages reçus et non coupés qui est dans ma chambre. Mais pas des preuves. Je pense qu'elles viendront.
Drôle, même dans sa correspondance, surtout dans sa correspondance, un petit peu sarcastique aussi,
écoutez,
Michel Herman.
Il était drôle, il était très ironique, Proust, dans la vie, était quelqu'un de très drôle. Hein. On ne le voit pas comme ça, mais c'était quelqu'un de très drôle. C'est quelqu'un qui aimait dire des mots grossiers également, hein, qui aimait imiter les autres. Bon. Mais dans sa correspondance, il était ironique, fin. Et là, ce que l'on voit, bien évidemment, c'est la relation éminemment affective de l'auteur et de l'éditeur. Alors, cette relation éminemment affective...
Affective, mais un petit peu tendue, en l'occurrence.
Oui, enfin, affective au sens très large, des affects.
Ah, hein, oui.
Voilà. Qui, je crois, d'ailleurs, est un modèle. Hein. Tout écrivain, ici, sera peut-être pas là, avec l'intensité des liens qui ont uni Proust et Gaston Gallimard, ou Jacques Rivière, enfin, d'autres de ses éditeurs. Mais chacun sait un peu qu'il y a quelque chose d'affectif voilà, entre un auteur et un éditeur. Et donc, cette affection a d'abord été un amour vache, puisque Proust a été refusé par Gaston Gallimard. Enfin, pas par Gaston Gallimard. Très exactement, l'affaire est très complexe. On n'a peut-être pas le temps de la dérouler ici, mais je vous donne simplement ma version. C'est Jacques Copeau, c'est pas André Gide qui a refusé le livre. Hein, tout le monde dit que c'est André Gide. André Gide a voulu reconnaître une faute qu'il n'avait pas commise pour paraître être le patron de la NRF à partir de 1916.
Mais il n'avait pas eu le manuscrit entre les mains ?
Il avait eu le manuscrit, il ne l'avait pas lu. Il l'avait pas lu, et c'était une époque où il y avait un comité de lecture qui était un comité de lecture un petit peu fantaisiste. Bon, je vous dis tout ça parce que j'ai fait moult recherches sur le sujet, en particulier dans des archives Rivière, qui sont des archives personnelles que l'on peut consulter, et qui montraient qu'à l'époque, il n'y avait pas de discussion sur les livres, et c'est Jacques Copeau qui avait commencé par refuser des extraits dans la NRF, de Proust qui a été le maître d'œuvre, voilà, pour aller vite. Bien, mais globalement il y avait une sorte de ressentiment et jusqu'au bout il y a une sorte de ressentiment de Proust envers les éditions Gallimard.
Mais alors là le ressentiment il vient aussi de Gaston Gallimard qui voit arriver donc ces fameuses paperoles. Vous allez nous dire ce que c'est un des mots parmi les 100 mots de votre livre et comment on fait avec ça parce que ça déborde ces paperoles.
Alors Proust avait une manière très 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 originale d'écrire. D'ailleurs le microcosme correspond au macrocosme. Hein, sa phrase extrêmement complexe qui se déploie comme une sorte de télescope et qui après se nourrit en fait d'adjonctions. C'est à la fois une période classique et puis une phrase comme celle des nouveaux romanciers, si vous voulez, hein, pour aller vite. Bon. Eh bien, cette phrase, parfois, elle débordait, bien sûr, des manuscrits. Et surtout, Proust procédait par ajout, par remords.
Il appelait ça surnourrir.
Alors, il appelait ça surnourrir son texte. Donc, il écrivait sur des grands cahiers. Bon, et ces grands cahiers ne laissaient pas très peu de place à la correction, si bien que il avait besoin de coller des béquets. Et Céleste Albaret a appelé ça des paperoles, le joli nom de paperoles, qui est maintenant entré dans la langue française. Et donc ensuite, Proust faisait procéder à des dactylographies, et parfois ça n'était pas lui-même qui faisait dactylographier, mais il se reposait sur son éditeur pour faire une dactylographie. Si bien que Gaston Gallimard voyait arriver une sorte de livre-objet, beaucoup plus qu'un manuscrit, d'où les interrogations et d'où la complexité du travail éditorial. Voilà.
Ça existe encore ce manuscrit original de la recherche avec toutes ces paperoles.
Alors oui, la Bibliothèque nationale a un certain nombre de manuscrits effectivement de la recherche du temps perdu.
Donc vous êtes mis en les consultant à la place de Gaston Gallimard.
Alors en consultant certains, on est d'abord l'amateur de Proust. Encore une fois, je tiens beaucoup au terme amateur. Hein. C'est Roland Barthes qui parlait de comme cela et je lui en sais gré. Et l'amateur de Proust est en quelque sorte subjugué quand il voit... voilà. Parce que c'est un petit peu comme si la recherche du temps perdu, qui est tout de même un immense livre métaphysique, au fond, hein, que l'on peut lire, à un moment on lit ça comme des scènes humoristiques, dramatiques, on lit ça comme une méditation... Et au total, c'est tout de même un livre de philosophie. Enfin, moi, je l'ai toujours lu comme un livre de philosophie.
Un livre d'une philosophie qui serait une philosophie particulière. Donc, on a
alors,
dit que
c'est
pas
une philosophie diffuse, bien évidemment. C'est une philosophie implicite. C'est une philosophie diffuse. Surtout que Proust, parfois, qui avait fait des études de philosophie, Proust avait une licence de philosophie et de sciences politiques. Et Proust emploie parfois des termes philosophiques, non pas à contre-temps, mais de façon relativement générale. Donc, c'est pas une philosophie. Pour moi, c'est une sorte d'idéalisme kantien, pour nommer les choses. Mais cela dit, c'est plus une philosophie qui invite, quasi spiritualiste, qui invite à se regarder soi-même. Oui, oui. Et donc, pour revenir à votre question sur les manuscrits, c'est comme si la lecture, qui est forcément une lecture faite par strates, faite par mouvement, par retour, trouvait une matérialité avec ses manuscrits et ses paperolles.
Alors, ces paperolles, c'est donc un mot inventé par Céleste Albarré. Il faut la remercier pour cela. C'est
absolument
un très joli mot qui reste aujourd'hui dans la littérature française. Qui était Céleste Albarré, Michel Hermant?
Alors, je vais vous dire qui était Céleste Albarré, mais je vais finir par répondre à votre question tout à l'heure. La robe. Eh bien, lorsque Proust voyait que Céleste l'amenait à coller des paperolles, il disait, elle fait exactement la même chose avec ses robes quand elles sont usées. Et la métaphore est très intéressante parce que c'est comme si il y avait quelque chose d'usé dans le texte qu'il avait écrit ou qu'il venait d'écrire et qu'il fallait en quelque sorte le rénover, le restaurer. Vous voyez, il y a sans cesse un mouvement entre ce qui a été fait, ce qui a peut-être été usé par, comme l'oubli use le temps, ou le temps use l'oubli plutôt, amène l'oubli plutôt, et puis le mouvement de l'écriture. Voilà. Alors Céleste Albarré, c'était au fond la vestale de Proust dans les dernières années de sa vie, les 8 dernières années de sa vie. Et ce qui était le lien affectif qui les unissait, c'était un lien très original qui était à la fois le lien entre, un lien d'amitié, mais également un lien de... Elle était presque maternelle pour lui. À certains moments, elle le considérait comme un enfant. Et à d'autres moments, elle le considérait comme un père. Donc il y avait entre eux un lien extrêmement particulier. C'est peut-être ce lien qui illustre ce que les philosophes appellent la philia, du mieux possible.
On l'écoute.
Non seulement Marcel Proust me lisait le lisait devant moi, mais me le lisait complètement. Me tenait au courant jour par jour de tout ce qui se passait, de ses lettres, de ses amis et de ce qu'on lui disait. Et même il s'amusait quelquefois des réflexions qu'on lui faisait sur moi, car quelquefois il y avait des personnes qui trouvaient que j'étais devenue trop importante dans sa vie, tant il m'avait accordé de conversations avec ses amis, où il disait que j'étais vraiment indispensable pour son travail et pour tout. Et du reste, il m'a fait très souvent le compliment, je m'excuse d'être ici si orgueilleuse de ça, mais j'en suis très fière, que vraiment il me devait tout, car s'il avait fait son livre, c'était grâce à moi qui avait resté toute la vie sans me coucher pour l'assister dans son travail. Et alors, de ce fait, il me lisait toutes ses lettres, il me mettait tout au courant, car j'étais obligée de correspondre avec le dehors pour lui-même et en quelque sorte de suivre ce qu'il désirait au plus près, puisque c'était mon désir également de faire tout ce qu'il désirait au mieux.
La Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Marcel Proust avec vous, Michel Hermant, et nous venons d'entendre cette archive assez célèbre de Céleste Albarré, mais c'est vrai que c'est une belle archive où on comprend la relation très particulière qu'elle entretenait avec Proust. On peut peut-être dire un mot de la façon dont ils vivaient ensemble et peut-être du rythme sur lequel elle s'était tout à fait collée, le rythme de Marcel Proust qui vivait la nuit.
Oui, oui, c'est très émouvant de l'entendre, parce qu'il exprime bien le respect du désir qu'il avait, c'est-à-dire la bienveillance qui fait le lien éthique, le lien d'amitié entre les gens. Alors ils avaient une vie effectivement très je veux dire particulière, mais enfin c'est le mot est pas forcément bien choisi, il n'y a aucune connotation. Proust vivait la nuit. Bon, et Céleste a été amenée peu à peu aussi à vivre la nuit. Elle s'est mise à son rythme. Il vivait donc dans un appartement assez grand.
Où il y avait aussi d'autres personnes, des secrétaires.
Alors, il y avait Odilon, le mari de Céleste, qui était le chauffeur attitré de Proust. Et puis, il est arrivé que Proust loge un de ses amis de cœur. Bon,
qui était toujours un secrétaire ou pas forcément?
Oui, qui l'utilisait comme secrétaire et qui lui servait de dactylographe. Mais je dirais souvent, il y a eu quelques cas, les gens profitaient un petit peu de lui, au fond. Proust éprouvait une sorte de plaisir à loger un jeune homme, mais le lien était un lien assez distant.
Il allait jusqu'à offrir des avions, pourquoi pas, à Anselmi.
Oui, alors là, c'est l'affaire Agostinelli. C'est un petit peu particulier, effectivement. Agostinelli avait été son chauffeur, quand Proust était un peu plus jeune, et qu'il séjournait à Cabourg. Et Agostinelli est venu un jour lui demander du travail. Il n'était pas le seul. Et Proust avait déjà un secrétaire, d'ailleurs. Bon, il a fini par lui donner un peu de travail. Il en est tombé éperdument amoureux. Il en était déjà un peu amoureux, d'ailleurs, quelques années auparavant. Et Agostinelli vivait en concubinage, avait une compagne. Et Proust a logé à la fois Agostinelli et sa compagne. Et puis un jour, Agostinelli est parti. Et on retrouve la scène transposée dans La Recherche du Temps Perdu. C'est la scène de l'aéroplane. Dans la réalité, Agostinelli, qui Proust avait payé avait offert des cours de pilotage, est tombé en avion au large d'Antibes et s'est tué. Et donc, mais il y avait un lien très affectif entre eux, même si Agostinelli n'a semble-t-il pas du tout cédé aux avances de Proust, puisque Agostinelli avait appelé son avion Swan. Mmh.
Vous avez une entrée, vous avez rédigé une entrée dans votre livre, qui est l'entrée domestique, pour dire finalement toute la connivence qu'il avait avec ses domestiques et puis aussi avec toutes les classes de la société, la facilité qu'il avait à parler à tout le monde.
Alors, oui, vous savez, là, il y a aussi un cliché, hein, Proust étant l'ami du monde aristocratique. Pas du tout. Moi, j'affirme clairement que tous les guermantes du monde, à tous les guermantes du monde, Proust préférait les gens simples. Une conversation avec des gens simples. Voilà. Et effectivement, les domestiques représentent, entre guillemets, le prolétariat dans La Recherche du Temps Perdu, parce que Proust parle, encore une fois, d'une sorte de dialectique du maître et de l'esclave entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Hein, quelles sont les armes des bourgeois, quelles sont les armes des aristocrates, qui à un moment se battent pour le prestige, hein, et pour l'évolution de la société. Voilà. Donc les domestiques n'y participent pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, il y a assez peu de petites gens dans l'œuvre de Proust. Mais enfin, il y en a un certain nombre.
Est-ce qu'on aurait pu lui en faire le reproche ?
Oui, c'est souvent ce que les gens font. Hein. On dit c'est un roman bourgeois, c'est un romancier bourgeois, etc. Tous les gens après qui ont voulu, en quelque sorte, un petit peu bousculer Proust, bousculer sa renommée. D'ailleurs, sa renommée est assez récente. Elle a, disons, une cinquantaine d'années. Hein. Jusque dans les années 1950-60, Proust n'était pas considéré comme le grand écrivain patrimonial qu'il est aujourd'hui.
Enfin, il avait reçu le prix Goncourt tout de même, donc il avait atteint une certaine notoriété quand même, non ?
Oui, mais alors si vous voulez, en 1919, le Goncourt, ça n'avait pas la valeur que ça a aujourd'hui du tout. Hein, voilà. Et ça n'a pas été un grand Goncourt. Hein. J'ai plus les chiffres en tête. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça n'a pas été une énorme vente. Non, Proust, après sa mort, a été relativement oublié et on a commencé à véritablement le lire à partir de 1965 quand Swan a été édité en poche. Avant, si vous voulez, ça n'est pas l'écrivain, il n'est pas considéré comme l'écrivain qui est aujourd'hui. Mais en revanche, tous ceux qui avaient été ses confrères, percevaient que cette œuvre allait certainement marquer le siècle. Et un grand nombre d'entre eux n'ont eu de cesse, avec beaucoup de malveillance, que d'essayer de déstabiliser la statue de Proust se construisant. Et une des remarques que l'on faisait, c'est un roman bourgeois qui parle de la bourgeoisie. Mais pas du tout. Encore une fois, Proust préférait la compagnie des gens modestes parce qu'il leur trouvait beaucoup plus d'authenticité. Dans La Recherche du Temps Perdu, il y a d'ailleurs cette scène magnifique à la fin du roman avec les Larivières. Les Larivières sont des cousins de Françoise, qui pendant la guerre viennent à Paris mettre leur fortune à la disposition d'une jeune veuve dont le mari est mort à la guerre, qui n'a plus rien et qui est une famille très très lointaine. Et l'une des seules dans La Recherche du Temps Perdu, l'une des seules, pas tout à fait la seule, mais l'une des plus grandes scènes d'empathie, c'est celle-ci. Et Proust ajoute, dans ce roman où tout est fictif, ces personnages sont réels.
Une autre idée reçue qu'on développe fréquemment au sujet de Proust, c'est l'idée qu'il serait conservateur. Et c'est d'ailleurs lié à ce que vous venez de dire. C'est pas tout à fait le cas. C'était un admirateur de Clémenceau, par exemple.
Alors, Proust a été un admirateur de Jaurès, puis un admirateur de Clémenceau. Et pour dire les choses rapidement, à un moment, il a pensé que Jaurès, comme on dirait aujourd'hui, était trop gauchiste, si vous voulez, et il a préféré le radicalisme de Clémenceau. Et dans Clémenceau, il y a quelque chose qu'il appréciait beaucoup, c'était le fait que Clémenceau, bien qu'étant un radical et un laïc, considérait que le culte et la culture avaient quelque chose à voir. Mmh. Et c'était tout à fait la vision de Proust, à l'époque de la loi de 1905. cette loi qui à un moment menaçait la culture, Proust était contre. Et quand Aldec Rousseau au fond a amendé un peu les choses avec l'aide de Clémenceau, et que Proust s'est aperçu que le patrimoine ecclésial allait pouvoir être conservé par un système d'association, etc., eh bien, il a été favorable à cette loi.
Donc, il y a effectivement la grande loi de séparation. Il y a aussi, évidemment, à cette époque, l'affaire Dreyfus. Je vous propose d'écouter un extrait de La Recherche où il y est fait référence.
Je vous trouve tous aussi assommants les uns que les autres avec cette affaire, dit la duchesse de Guermantes, qui, au point de vue mondain, tenait toujours à montrer qu'elle ne se laissait mener par personne. Elle ne peut pas avoir de conséquences pour moi, au point de vue des Juifs, pour la bonne raison que je n'en ai pas dans mes relations, et compte toujours rester dans cette bienheureuse ignorance. Mais d'autre part, je trouve insupportable que, sous prétexte qu'elles soient bien pensantes, qu'elles n'achètent rien aux marchands juifs, ou qu'elles ont « mort aux Juifs » écrit sur leur ombrelle, une quantité de dames du rang ou du bois, que nous n'aurions jamais connues, nous soit imposée par Marie Hénard ou par Victurnienne. Je suis allé chez Marie Hénard avant-hier, c'était charmant autrefois. Maintenant, on y trouve toutes les personnes qu'on a passé sa vie à éviter, sous prétexte qu'elles sont contre Dreyfus, et d'autres dont on n'a pas idée qui c'est. Non, c'est la femme du ministre de la guerre. C'est du moins un bruit qui court les ruelles, reprit le duc qui employait ainsi dans la conversation certaines expressions qu'il croyait ancien régime. Enfin, en tout cas, personnellement, on sait que je pense tout le contraire de mon cousin Gilbert. Je ne suis pas un féodal comme lui, je me promènerais avec un nègre s'il était de mes amis, et je me soucierais de l'opinion du tiers et du quart comme de l'an 40. Mais enfin tout de même, vous m'avouerez que quand on s'appelle Saint-Loup, on ne s'amuse pas à prendre le contre-pied des idées de tout le monde qui a plus d'esprit que Voltaire, et même que mon neveu.
Un extrait du côté de Guermantes, lui ici par Robin Renucci, où il est donc question de l'affaire Dreyfus. Michel Hermant, il en est beaucoup question dans La Recherche de cette affaire Dreyfus.
Alors dans La Recherche, il y en est effectivement beaucoup question. Et ce qui est intéressant, c'est que Proust ne nous raconte pas l'affaire. Il nous raconte la manière dont l'affaire retentit dans les consciences, dans les snobismes, dans l'idée de la justice qui n'est jamais tout à fait une morale, mais qui est toujours liée, au fond, aux opinions des autres, au prestige que l'on peut peut-être prendre sur les autres. Si bien qu'à l'occasion de cette affaire, on s'aperçoit que, finalement, la volonté morale n'existe pas, mais existe simplement à un moment, une espèce de tension snob, qui fait que on va imiter quelqu'un parce qu'il est susceptible d'être imité, qu'on va détester quelqu'un et donc ses opinions, parce que ça ne vaut pas la peine de les imiter.
Donc c'est une vision extrêmement fine, finalement, du processus politique, plus que de la politique elle-même et de l'idéologie, mais de comment la politique se diffuse dans une société.
Vous l'avez dit, c'est exactement ça. C'est, en un mot, si vous permettez que je résume ce que vous avez dit, c'est le processus de la croyance. Mmh. Voilà, c'est ça qu'il décrit. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Mais de son point de vue, à lui, du point de vue de l'homme Proust, Proust a été, vous savez, l'un des premiers Dreyfusards. Mais très vite, il s'est aperçu que cette affaire devient une affaire dramatique qui créait des clans. Et à partir de 1899, il publie un texte, je ne sais plus si dans le Figaro, avec d'autres intellectuels, dont celui qui avait été son maître en philosophie, Alphonse Darlu, néo-kantien, pour dire que il fallait que maintenant les deux parties, les deux Frances qui s'étaient déchirées, se réconcilient. Et Proust a très vite vu que les Dreyfusards étaient parfois les Dreyfusards de la 11e heure, et que c'était au fond une manière de promouvoir des opinions pour s'en servir après soi-même. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et ensuite, Proust, au fond, a considéré que l'affaire Dreyfus était derrière lui, mais une chose, s'il a réagi, c'est pas par opinion politique, c'est par goût de la justice.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous ces mots dont on n'a pas pu parler avec vous, malheureusement, Michel Hermant, mais ne vous inquiétez pas, nous referons une semaine Proust sur France Culture dans la compagnie des auteurs. Je rappelle donc, pour ceux qui voudraient les lire, finalement, ces mots dont on n'a pas pu parler, votre ouvrage « Les 100 mots de Proust » disponible dans la collection « Que sais-je ?» C'est aux presses universitaires de France, puis également votre biographie rééditée donc en 2013 aux éditions de La Table Ronde. C'est le moment d'aller voir du côté des revues. ce qu'il se passe. Et aujourd'hui, c'est une revue qui est aussi et même surtout un réseau social littéraire. Et c'est Babelio. Bonjour Pierre Cros.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous venez nous parler de bande dessinée.
Tout à fait, parce que après la rentrée littéraire de septembre, qui a été l'occasion de parler de nombreux romans, eh ben il est temps de parler de bande dessinée. Des BD très attendus ont été publiés récemment. Je pense évidemment en premier lieu à Astérix, qui est la star incontestée de l'édition française, puisque pas moins de 5 millions d'exemplaires de ses dernières aventures ont été édités. Alors pour être précis, c'est 2 millions en France, presque autant en Allemagne et le reste dans le reste du monde. C'est le 37e album de la série et le troisième du tandem Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Il s'intitule Astérix et la Transitalique aux éditions Albert René.
Est-ce qu'il a été bien accueilli cet album ?
Écoutez, il est sorti il y a à peine quelques jours et il y a déjà une vingtaine de critiques sur Babelio. Il fait naturellement partie des livres les plus populaires sur le site. Il y a déjà des quiz qui ont été publiés. Alors l'intrigue repose sur une course de chars organisée en Italie. Eh bien, ce sont des critiques plutôt favorables qui sont postées. Le dessin de Conrad est si proche du meilleur du Derzo qu'on ne peut s'incliner devant la prouesse, nous dit Enki. Pour Miss Sherlock, on retrouve l'esprit bon enfant de la série. Et Umezu résume un peu le sentiment général des lecteurs. Tout cela est réjouissant, sympathique et mérite son banquet final.
D'accord, alors Astérix, mais c'est sans doute pas, Pierre, la seule bande dessinée qui paraît en ce moment en librairie.
Non, alors si seul Obélix est tombé dans la potion magique, les héros de BD ne meurent jamais vraiment de toute façon. Et on a vu ce mois-ci le retour de plusieurs personnages emblématiques de la bande dessinée. Corto Maltese, le marin mélancolique, dont les aventures ont été reprises, là encore avec succès, par Juan Diaz Canales et Ruben Pellerero chez Casterman. On retrouve la poésie d'Hugo Pratt, d'après les lecteurs, donc dans cet album Equatoria, ce nouvel album dont l'action se situe en Afrique, dans une région aujourd'hui disparue, Equatoria.
Et puis, on veut justement voir des auteurs de bande dessinée et lire de la bande dessinée, on peut se rendre ce week-end à Saint-Malo.
Tout à fait, du 27 au 29 octobre, se tiendra à Saint-Malo l'édition 2017 de Quai des Bulles, sans doute le plus grand festival de BD après Angoulême. Comme chaque année, il y aura des expositions, dont une d'ailleurs sur Astérix, des rencontres, il y aura aussi des dédicaces. L'équipe de Babelio va proposer plusieurs choses sur place. On va présenter une étude sur la non-fiction en bande dessinée, quand les bulles racontent le monde. C'est vendredi dans le Palais du Grand Large. On interrogeait les membres de Babelio sur leur perception de ces bandes dessinées de non-fiction qui sont de plus en plus populaires en ce moment. Il y a par exemple la petite BDTech des savoirs chez Le Lombard qui connaît un grand succès. Pour chaque album, un spécialiste et un dessinateur s'unissent pour faire comprendre le monde en bande dessinée. Les thèmes, c'est par exemple les zombies, le cinéma, les tatouages, voilà, divers thèmes. On va aussi animer, pendant le festival Quai des Bulles, deux rencontres dessinées. Une avec Alfred, qui avait remporté le Fauve d'Or à Angoulême pour son album Come Prima. Ce sera vendredi. Et l'autre avec Chosy, le samedi. Chosy, c'est celui qui a récemment adapté en BD le roman culte de Pierre Pelot, L'été en pente douce, chez Fluide Glacial. Et donc voilà, on va poser en fait pendant ces deux rencontres, on va poser des questions à ces deux auteurs et ils vont répondre en dessinant, en direct, en retraçant un peu leur parcours et les dessins seront projetés sur scène. Et enfin, si on vous propose de vous défier sur le 9e art avec plusieurs sessions de quiz qui vous permettront peut-être de remporter des bandes dessinées. Alors si vous aimez la bande dessinée, si ça vous intéresse, rendez-vous ce week-end à Saint-Malo.
Et rendez-vous sur babelio.com tout le reste du temps. Merci Pierre Cros. Deuxième partie de cette émission consacrée à Marcel Proust dans la compagnie des auteurs. Nous sommes à présent rejoints par François-Bernard Michel, romancier, poète, essayiste, mais aussi pneumologue et professeur en médecine. Il a publié il y a quelques mois aux éditions Gallimard un essai intitulé « Le professeur Marcel Proust » dont nous parlons aujourd'hui alors que revoilà Céleste Albarré.
Monsieur Proust était un grand malade et évidemment, il menait une vie qui n'était pas faite non plus pour qu'il soit très fort. Il ne se nourrissait pas. Et il travaillait, le docteur qui le soignait, qui était le docteur Bise, disait « Mon cher maître, il y a une chose que vous ne voulez pas admettre, mais vous ne mangez pas suffisamment, car le travail que vous produisez est un effort beaucoup plus fort qu'un laboureur. » Et Proust travaillait énormément.
Et vous avez effectivement le souvenir qu'il mangeait peu.
Ah, mais c'était moi qui le servais. c'est-à-dire qu'il lui portait son plateau et il ne prenait qu'un peu de lait avec de l'essence de café. Et au début, il prenait un croissant ou deux par jour. À la fin de sa vie, il n'en mangeait plus. Et il ne mangeait rien d'autre que son café au lait. Et c'était peu. Et je dirais même qu'en dernier, il ne prenait pas toujours son café au lait.
Et il dormait peu. Est-ce qu'il travaillait
Certainement,
la nuit?
Certainement, il s'isolait toute la nuit. Pendant 10 ans que j'étais près de lui, je ne me suis jamais couchée la nuit parce que j'étais toujours là pour lui passer ou ses livres, ou ses porte-plumes, ou parce que c'était un grand seigneur avec une gentillesse extraordinaire car c'était un être exceptionnel.
Bonjour à vous, docteur François-Bernard Michel. Vous avez entendu parler, vous, de ce docteur Blize, dont parle Céleste Albaret, le gouverneur
oui,
de Proust.
Oui, celui que Proust appelait le bon docteur Blize.
Ah, Blize.
Alors, c'est un très brave homme. C'est le médecin praticien, mais vraiment tout service, c'est-à-dire il est toujours là dès qu'on l'appelle, etc. C'est pas un puits de science, mais c'est un bon médecin. Et le malheureux, il se désespère de voir que Proust ne suit pas ses prescriptions. Mais effectivement, je crois que cette présence permanente, cette espèce de SAMU à disposition de Marcel est très précieux pour lui.
Alors vous avez connu la fille de Céleste Albaret, dont vous étiez le pneumologue.
Oui, la fille de Céleste était une personne très attachante et qui ajoutait quelques anecdotes à celles que on trouve dans le livre Monsieur Proust. Et je dois dire que j'ai ainsi fait le lien un petit peu entre Proust, Céleste et l'actualité de ce livre.
Ouais, Céleste Albaret qui est ensuite devenue la gardienne de la maison Maurice Ravel. C'est dire à quel point elle a fréquenté les grands esprits et les grands artistes de son temps.
Si vous permettez, il y a une énigme à propos de Céleste, c'est que cette fille de la Lozère, qui est tout à fait inculte, a eu quand même l'intelligence paysanne, on peut dire, de déceler chez Marcel cette espèce de génie qu'elle a admiré, qu'elle a favorisé.
Alors vous avez consacré une partie de votre vie, François-Bernard Michel, une grosse partie même, à la question des allergies, la question de l'asthme. Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes intéressé à Proust ou est-ce que ça n'a rien à voir?
C'est comme ça. C'est-à-dire que on parle toujours du professeur des professeurs Adrien et Robert Proust, c'est-à-dire père et frère de Marcel. Là, j'ai voulu intituler le professeur Marcel Proust parce que c'est un professeur pour professeur. Et plus généralement, pour tous ceux qui veulent le lire, si on est adepte de la bibliothérapie, car Proust est un thérapeute.
Ah oui, on en parlera de la bibliothérapie.
Voilà. Et pour ma part, il m'a appris l'asthme bronchique. Alors si je peux en deux mots résumer le passé, j'étais à la charnière entre tuberculose et asthme en matière de ma discipline, et tout d'un coup, parce que j'avais des nouveaux médicaments, cortisone en particulier, inhalé, j'ai vu arriver des cohortes d'asthmatiques qui venaient vers moi, parce que bon. Et je dois dire qu'au bout d'un certain temps, je pouvais plus accueillir ces gens, parce que l'asthme est une maladie bizarre. Je sais pas si vous avez assisté à des crises, peu importe. Ce sont des gens qui étouffent, qui vont mourir, et en fait, ils meurent
c'est
pas.
C'est très spectaculaire, en
oui,
tous les cas.
Ils meurent pas, et avant et après, ils sont prêts à rire, etc. Mais dans la crise, il y a quelque chose qui s'est dénoué, comme dans toute crise, du pétrole, etc. Alors je disais, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui miment la mort, mais qui ne meurent pas? Et c'est la lecture de Proust qui m'a enfin ouvert les yeux, en particulier la métaphore Duchesse de Guermantes. Vous connaissez le contexte, il est allé à Doncières pour obtenir de la Duchesse une invitation à pénétrer dans son salon, et puis ça marche pas, et puis il est séparé de la duchesse et il explique là que le fait d'être éloigné de la comté de Greffeuil, donc, lui donne l'impression qu'on a enlevé dans sa poitrine des organes, qu'on les a remplacés par quelque chose d'immatériel et que le chirurgien a beau être expert en ligature, eh bien ça ne marche pas, il y a toujours là une souffrance au creux de la poitrine. Alors j'ai compris, sans faire de la psychologie de bazar, que l'asthme c'était ça, c'était une souffrance qui s'était installée là dans les bronches, qui ne pouvait pas se dire et qui pouvait peut-être rappeler chez ces patients asthmatiques quelque chose du passé. Alors, évidemment, ça guérissait pas les gens de faire cette analyse. Il y avait des médicaments. Mais je proposais aux asthmatiques en fin de consultation, écoutez, je sais pas ce que vous me dites avec vos crises d'asthme, mais il y a chez vous une souffrance. Si vous voulez qu'on essaie d'en parler, on peut le faire. Alors, certains refusaient tout de suite, d'autres disaient, je vais réfléchir, etc. Et c'est un certain nombre, comme je le raconte dans ce livre, ont été très heureuses ou heureux de pouvoir regarder dans leur passé un traumatisme, un deuil, etc., qui pouvait expliquer cette genèse de l'asthme.
Donc l'asthme est en partie, pour vous comme pour Proust, une maladie qui est à la fois physique et à la fois autre chose.
Voilà, psychosomatique. Proust a écouté les âneries de ses professeurs, amis de son père, et comme son père inclus, bien sûr, jusqu'au jour où il a dit, bon, ça suffit maintenant, parce que au départ, on lui a dit, vous êtes asthmatique, c'est nerveux. Alors calmez-vous, et puis ça ira mieux. Bon, alors il a compris qu'on se moquait de lui. Il a fait sa propre recherche, et il a trouvé qu'il y avait du psychosomatique.
Et comment a-t-il trouvé cela, alors?
Il a lu Ruskin, avec les forces de l'esprit. Et alors il a compris que le corps, l'esprit, la dichotomie était plus tenable, et il a compris en particulier que l'asthme était psychosomatique, ce qui veut pas, voilà. Alors un exemple de sa perception du psychosomatique, c'est que on le dit pas assez souvent, Proust a tué son père. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans une lettre à Anna de Noailles. Il s'est disputé violemment un dimanche soir avec son père. On ne sait pas très bien pourquoi. Il parle de politique. En tout cas, peut-être l'affaire Dreyfus, puisque le tribunal ne s'était pas prononcé.
Était plutôt anti-Dreyfusard.
Alors, le père...
Tout comme
le
il
fils,
était un peu homophobe.
Le père et le fils, ça ne peut pas marcher, parce que Marcel a horreur de deux types de personnes, les homophobes et les antisémites. Alors là, évidemment, avec son père, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors donc, ils se sont disputés, et Marcel écrit à Anna de Noailles, je regrette, j'ai pas vu que cet homme était malheureux, j'ai dit des choses que je ne me reprocherai toujours. Bon, ça c'est un dimanche soir. Le mardi matin, le père fait un accident vasculaire cérébral et il meurt. Donc, ça n'est pas dit, mais les médecins en général ne peuvent pas ne pas faire un lien entre cette dispute très violente et affectivement douloureuse et le décès d'Adrien Proust.
Alors ce que ça signifie aussi, c'est que Proust a des intuitions très fortes en matière de médecine et que ces intuitions correspondent à l'ère du temps, au moment où il vit, à l'ère du temps de la recherche en médecine.
Vous avez parfaitement raison, il y a eu des mauvais médecins que j'ai mentionné. Et puis, il y en avait de bons. C'est-à-dire des gens, en particulier des patrons, quelques patrons parisiens, le professeur Degerine, qui commence dans leur service, au lieu de parquer les gens avec l'étiquette fou, ils commencent dans leur service à créer des secteurs où on peut accueillir les malades, parler avec eux, hein, sans être entouré d'une foule, etc. Et ils font une démarche, donc, qui tendra vers la démarche de Freud, évidemment. Et il est intéressant de constater que Proust, qui n'est pas médecin, va devenir un peu médecin, et que Freud, qui est médecin, ira dans la même convergence, mais différemment.
Des auteurs sur France Culture, nous parlons de Proust médecin et de Proust malade aussi, malheureusement, avec vous, François Bernard Michel. Alors, on va raconter, parce que vous le racontez, c'est assez drôle, hein, finalement, le rapport de Proust avec ses médecins. Enfin, c'était pas drôle pour lui, mais c'est drôle pour nous. D'abord, dire que son père, qui était considéré comme étant l'un des grands médecins de l'époque, était assez incompétent quand il s'agit de soigner son fils sur la question de l'asthme.
Oui, il est totalement incompétent. Et ce qui est curieux, c'est qu'il confie son fils à un professeur de neurologie, le professeur Brissot, qui a laissé une certaine trace dans la neurologie française. Et pourquoi c'est Brissot qui s'occupe de Marcel? Parce qu'on estime à l'époque que l'asthme est une névrose. Je reviens au fameux qualificatif à tout faire de nerveux ou d'être nerveux, etc.
Bon, c'est aussi Charcot qui, à ce moment-là, est très présent dans la médecine française et qui, j'imagine, influence un petit peu tous les diagnostics.
Bien sûr, Charcot, c'est le dieu de la neurologie à l'hôpital de la Salpêtrière et l'école est évidemment très, très importante, très fructueuse. Et Freud a été élève, là, a été stagiaire chez Charcot. Et puis, il y a ce fameux tableau de Brouillet, une leçon à la Salpêtrière qui montre une personne qui était, je dirais, dans le rôle, c'est-à-dire qu'elle venait régulièrement jouer ce rôle, qui, à la parole de Charcot, s'évanouit, tombe en arrière dans les bras d'un grand médecin qui est M. Babinski, qui laissera une trace dans la neurologie française. Voilà. Alors, Marcel continue sa recherche et après la mort de sa mère, il avait promis à maman d'aller se faire hospitaliser dans un sanatorium parce qu'on pensait que l'asthme allait guérir dans un sanatorium. C'était évidemment complètement infondé, mais il est allé, il a choisi la clinique du docteur Saulier. Alors ce Saulier, c'est un nom qui est oublié de la neurologie française, mais c'était pourtant un grand monsieur qui, lui, alors, avait commencé à faire des entretiens avec les patients pour explorer leur passé. Il avait créé le mot de réviviscence. Alors là, évidemment, on n'est pas loin des réminiscences. Il serait déplacé de dire que l'œuvre de Proust doit quelque chose au docteur Saulier. Mais enfin, il y a eu là une mise en marche de la réflexion de Marcel.
Alors, on l'emmène donc voir ce docteur Édouard Brissot. Bon, il en verra beaucoup, hein, des docteurs, mais celui-là est quand même particulièrement intéressant. Au début, ça se passe très bien, parce que c'est un docteur qui n'est pas habillé comme tout le monde. Il a finalement beaucoup de chic et puis il s'intéresse aux arts. Et ça plaît beaucoup à Marcel Proust.
Bien sûr, Brissot est séducteur. Il est beau, il est élégant, il pratique une médecine un peu différente, il lui parle d'art et de littérature, de théâtre, etc., ce qui intéresse beaucoup Marcel. Mais ce qui est significatif, c'est l'évolution des jugements de Marcel Proust à l'égard de Brissot. C'est-à-dire que, après des jugements très enthousiastes, il évolue et il finira par dire que c'est Sganarelle, c'est la médecine de Molière. Ouais. Ce qui est très grave, oui, pour un médecin, oui.
Alors, quels sont les traitements inefficaces qu'on lui proposera?
Alors, on lui propose beaucoup de choses, et en particulier les inhalations. Et vous savez que c'était une thérapeutique de fumée produite par des plantes desséchées. Et c'est ce que Proust appelle les fumigations, qui sont tout un rituel proustien. Mais ces fumigations avaient un pouvoir thérapeutique extrêmement modeste. Et on imagine la souffrance qu'il faut affirmer, qu'il faut répéter. La souffrance de Marcel avec son asthme, qui a été sûrement terrible. Car on voit aujourd'hui la souffrance des asthmatiques avec des grands médicaments. Et on imagine ce que ça pouvait être auparavant.
Oui, une souffrance qui a été niée. Nié en particulier par la famille, enfin par le père qui était lui-même médecin.
Oui, le Adrien Proust a pensé que son fils jouait la comédie, qu'il était un paresseux, alors qu'il travaille comme un acharné dès le début. Il a écrit 1000 pages. Et puis aussi, même dans la critique postérieure, ultérieure, on a dit que Proust était un salonnard, que l'asthme était une coquetterie, qu'il n'avait pas vraiment souffert. Non, il faut faire la table rase de ses jugements. Proust a beaucoup souffert.
Alors quand même, parmi les médecines, les remèdes qu'on donne à Marcel Proust, et notamment ce fameux Édouard Brissot, dont il est très difficile d'ailleurs d'extirper quelques mots sur la médecine, hein, puisqu'il préfère, comme on l'a dit, parler d'art et de littérature. Bon, de temps en temps, il lui dit « Oh, bah, il faudrait vous couvrir peut-être un peu plus, ou alors pourquoi pas faire un lavement au mercure ?» Voilà une bonne idée, le lavement au mercure, François-Bernard Michel.
Oui, c'est une thérapeutique absolument folle, n'est-ce pas? On voit pas, mais enfin, elle n'est pas tellement différente de ce qu'on proposait à l'époque. Alors, non seulement c'est inefficace, mais c'est toxique. Et effectivement, Proust l'a fait, sinon par conviction, au moins pour satisfaire Brissot, et ça a été désastreux. Il a aussi beaucoup puisé de l'adrénaline, qui est le précurseur des médicaments actuels de l'asthme, mais qui s'utilisait en solution pure, et un jour il a abusé de la dose, il a eu une intoxication très très douloureuse.
Oui. Bon, comme les somnifères qu'il a pris pendant 10 ans, alors que c'est très mauvais apparemment.
Ah oui, très
pour l'asthme. Alors, deux choses. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que médecin, que la vie de Proust a été raccourcie, finalement, par ces traitements? Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que, dans la littérature de Proust, on retrouve tous ces épisodes de soins, de mauvais soins?
Alors, la vie de Proust a été sûrement écourtée par son asthme et son traitement, mais vous amenez à dire une réflexion au second degré, c'est-à-dire que, à la limite, on pourrait dire qu'il s'est servi de l'asthme, mais que sa maladie et la vie, il s'en fichait. Ce qui importait, c'est l'œuvre. Voilà. Il faut finir, il faut avancer, il faut reprendre, il faut réécrire. Et ça se voit bien dans les derniers moments où vraiment il est au bout du rouleau. Céleste lui dit, mais allez vous reposer, arrêtez, etc. Non, il faut finir, il faut mettre le mot fin.
Bon. Mais il n'a pas cette idée que peut-être s'il se ménageait un peu, il pourrait écrire pendant plus longtemps, pendant davantage d'années?
Non, il semble pas qu'il ait pensé, qu'il ait fait ce calcul. Manifestement, bon, il a mis beaucoup de bonne volonté à se soigner, puis il s'est fait médecin de lui-même, il avait fait ses propres thérapeutiques, mais manifestement, ce qui lui importait avant tout, c'était d'écrire, et s'il voulait se soigner, c'était pour écrire. Alors, pour ce qui concerne votre première question, on revient encore là aux métaphores, c'est-à-dire, je parlais de la princesse de Guermantes, la métaphore de l'allergologie est pas mal non plus, c'est-à-dire que dans les soirées, l'ambassadrice de Turquie se précipite vers lui, elle a pris une affection, je sais pas pourquoi, elle l'accable, elle l'agace, il veut s'en défaire, mais elle est toujours là. Et alors, il écrit ceci, sans parler d'anaphylaxie. Alors, où il a appris ce mot anaphylaxie? Je ne le sais pas, ça a été découvert 2 ans avant par 2 Français, prix Nobel de médecine, Richer et Portier, mais lui, il s'en sert, comme toujours. Alors, sans parler d'anaphylaxie, et il en parle, le rejet que nous avons vis-à-vis de certaines personnes vient de notre incapacité à les supporter. Alors, il fait allusion très clairement à l'expérience fondatrice de l'anaphylaxie, c'est-à-dire que ces 2 chercheurs français ont voulu désensibiliser un chien à des injections de venin, et puis ils l'ont tué. Alors, question, mais comment ça... Bon, à l'époque, on ignore que ils ont fait fabriquer à ce chien des anticorps. On sait aujourd'hui que ce sont des immunoglobulines E, des IgE, et ce chien est mort d'un choc anaphylactique. Mais ce qui est génial chez Proust, c'est que il a pêché ce mot et il s'en sert pour montrer que c'est la base biologique de tous nos rejets psychologiques. Il fait le saut, comme toujours, du physique dans le psychique et inversement. Et je crois qu'il est prophétique quand on pense aux rejets, à tous nos rejets du 21e siècle.
Donc c'est vraiment le Proust médecin. Du côté du Proust écrivain et des personnages de médecins qu'on trouve dans la recherche, est-ce qu'il y a aussi des choses à creuser de ce côté-là?
Oui, bien sûr, ce serait inépuisable. Il y a le fameux parallélisme entre Duboulbon et le professeur Cottard. Là aussi, Proust, finalement, a très bien vu qu'ils avaient chacun leur part de vérité. Ce qui l'intéresse, finalement, c'est de dresser un tableau psychologique de ces deux pauvres médecins, c'est-à-dire que ils veulent tous les deux, avec l'un c'est abonder dans le psychique, l'autre dans le physique. Ils ont tous les deux tort. Et lorsque Proust prescrit à ses amis de nombreuses ordonnances, leur parle du psychosomatique, en même temps il les tense. Il faut pas abuser du psychosomatique. Attention, il faut regarder. Il y a des maladies qui paraissent psychiques, qui sont organiques, etc. Bon, il précise, il a à cœur de bien préciser ses notions.
Donc il dénonce aussi ces diaphoirus que Molière en son temps avait aussi dénoncé, sauf que la différence c'est que il a moins envie de rire quand même que Molière, il est plus sérieux parce qu'il en souffre quand même profondément.
Absolument, derrière l'ironie, derrière la moquerie, il y a une grande souffrance, il en veut à ses médecins, et c'est pour ça qu'il en parle quelquefois aussi durement, en particulier de ces dames qui, dans Paris, organisent des dîners pour se moquer des écrivains, ou alors pour utiliser. On invite un grand médecin et on invite Proust en même temps parce qu'il faut se rendre un faire-valoir. Et Proust est très amer de ce qu'il raconte dans une de ses œuvres de jeunesse.
Merci beaucoup François-Bernard Michel de nous avoir parlé de ce Proust médecin. Je rappelle plutôt, non pas à vous mais aux auditeurs, que vous avez écrit un livre qui s'appelle Le professeur Marcel Proust et qui est disponible chez Gallimard. Vous avez également publié deux autres essais sur Proust. Proust et les écrivains devant la mort, c'était chez Grasset en 1995. Et Proust et Beckett, deux corps éloquents, chez Actes Sud en 2011. Demain, c'est Philippe Berthier qui viendra nous parler d'un personnage inoubliable de l'œuvre de Proust, à savoir le baron de Charlus. Mais tout de suite, on retrouve la poésie, c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, camarades. Bonjour, la compagnie. Camarades, il faut virer Essénine, Sergueï Essénine du plénum poétique russe. Il prêche le pessimisme. Écoutez. Souvenir. À présent, octobre, ce n'est plus cela. Ce n'est plus cela, octobre, à présent. Dans ce pays où siffle le mauvais temps, rugissait et hurlait, octobre, telle une bête, octobre de l'an 17. Je me souviens d'un jour, terrible, et de neige. Le regard était brouillé. Une ombre de fer planait sur Pétrograd assombri. Déjà, on sentait tous l'orage. Déjà, on savait tous quelque chose. On connaissait, ce n'était pas à tort, ces transports de soldats au crâne d'acier. Ils se sont répandus. Ils se sont mis en ligne. La foule tremble de peur. Soudain, quelqu'un arracha l'enseigne d'une organisation pleutre. Et cela commença. Les regards s'affolèrent, toutes brûlantes de guerre civile. Et dans la fumée d'un aurora ardent, se leva une aube de fer. Notre destin s'accomplit. Et au-dessus du pays, sous les cris, les vociférations, en lettres de feu jaillit l'inscription « Soviet des députés ouvriers ». Bon, je vois pas quoi reprocher à ce poème. Oui, oui, mais alors, pourquoi cet ajout, cet envoi à la fin du poème ? La tempête pleure tel un violon tzigane, fille aimée, méchant, sourire, n'ai-je pas à cause de ton œil bleu perdu courage ? Il me faut beaucoup, beaucoup, mais inutile. Est-ce que, parlant de fille aimée, il parle de la révolution ? Nous sommes si éloignés, si peu semblables, tu es jeune et j'ai tout vécu. Bonheur à la jeunesse, je n'ai plus que la mémoire dans cette nuit de neige et de tourbillon. Personne ne me caresse, la tempête et mon violon, ton souvenir bouleverse mon cœur comme une tourmente. Ajout brechtien, rapidité de l'identification socialiste. En 1930, à Moscou, on demanda à un homme qui arrivait de Nikolaïevsk sur l'amour « Comment c'est maintenant là-bas ? » Il répondit « Comment puis-je savoir ? Le voyage dure 6 semaines et en 6 semaines, là-bas, tout change. » Du camarade Berthold, qu'est-il arrivé ? Le propriétaire d'usine fait réviser son avion. Le curé réfléchit à ce que 8 semaines auparavant il a dit en chaire au sujet du denier qu'il faut rendre à César. Les généraux s'habillent en civil et ressemblent à des banquiers. Les fonctionnaires dans les administrations se font aimables. L'agent de police indique son chemin à l'homme en casquette. Le propriétaire d'immeuble vérifie si les canalisations ne fuient pas. Les journalistes écrivent le mot « peuple » en capitale. Les chanteurs chantent gratis à l'opéra. Les capitaines au long cours contrôlent la nourriture dans les cambuses. Les propriétaires de voitures s'assoient à côté de leurs chauffeurs. Les médecins attaquent les compagnies d'assurance en justice. Les savants étalent leurs inventions et cachent leurs décorations. Les gros paysans apportent des tombereaux de pommes de terre dans les casernes. La révolution a gagné sa première bataille. Voilà ce qui est arrivé.
Merci Jacques Bonafé pour ces poèmes de Bertolt Brecht et Sergueï Essénine.